Aller-retour.
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 Un podcast en 3 épisodes réalisé par la commission jeunesse de la FASTI en partenariat avec le Sonolab de Jet FM.
Vivons ensemble.
Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans ce deuxième épisode du podcast Aller et Retour.
Celui que vous allez entendre maintenant porte sur les femmes et la migration. En effet, les femmes sont plus souvent victimes de violences et de discriminations dans leur pays d'origine, pendant la traversée des frontières et parfois même à leur arrivée en France. Elles sont aussi très mobilisées et actives dans les luttes pour les droits des personnes sans papier. Cet épisode d'Aller-retour leur est dédié. On commence tout de suite par une interview de la sociologue Elsa Tisley qui enquête sur les vécus des femmes migrantes aux frontières françaises.
Je m'appelle Elsa Tisley, je suis sociologue, chercheuse postdoctorale au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Je suis spécialisée sur les questions migratoires de genre et de racisme. J'ai réalisé entre 2015 et 2019 un travail de thèse sur le contrôle migratoire mené à la frontière maroco-espagnole et notamment sur les violences aux frontières des enclaves de Ceuta et Melilla. Depuis 2020, je mène des recherches sur le contrôle migratoire et la production de violences de genre aux frontières françaises, à la frontière aérienne française, c'est-à-dire dans les zones d'attente, à la frontière franco-italienne haute, autour de Briançon et de Montgenèvre, et dans les Alpes-Maritimes, à la frontière entre Menton et Vintimille. Et je serai amenée bientôt a aussi enquêté à la frontière franco-espagnole, dans le Pays Basque, et à la frontière franco-britannique, notamment à Calais et Dunkerque. Parallèlement à mes activités de recherche, je suis également militante et notamment membre du réseau Migre-Europe depuis 2014. Je vais vous parler de comment les rapports de genre façonnent les expériences des personnes en quête de migration et d'exil aux frontières. Le contrôle anti-migratoire mis en place aux frontières, qu'elles soient aériennes ou terrestres, se traduit de façon structurelle et systématique par des pratiques profondément racialisées et genrées, et en conséquence par des violences racistes et sexistes. Les situations aux frontières sont souvent étudiées de façon androcentrée. On invisibilise les femmes et les autres minorités de genre. Et la dimension raciale est souvent éludée alors qu'elle est tout à fait centrale et structurante. Les rapports de race et de genre s'entremêlent. Ils ne peuvent donc pas être compris séparément. J'étudie ainsi de façon intersectionnelle comment ces rapports de pouvoir et de domination s'imbriquent aux frontières, c'est-à-dire comment ils peuvent se renforcer mutuellement pour structurer les pratiques de contrôle et impacter, façonner les expériences des uns, des unes et des autres. Les enquêtes menées aux frontières révèlent donc des pratiques, en discours et en actes, de contrôle migratoire, racialisé et genré. Racialisé car elles ciblent certaines personnes plus que d'autres, déploie plus de violence contre certaines que d'autres, les personnes racisées noires étant souvent les plus réprimées par la violence physique et symbolique, comme le montre une énième fois le massacre raciste qui a eu lieu le vendredi 24 juin à la frontière de Melilla où plus de 30 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées par les pratiques de répression des militaires espagnols et marocains dans le cadre de l'externalisation des politiques de l'Union européenne au Maroc. Ces pratiques de contrôle migratoire sont aussi genrées, car les modalités de contrôle et de répression découlant du contrôle migratoire affectent souvent différemment les hommes et les femmes, produisant des violences genrées aux frontières, avec schématiquement des hommes souvent réprimés par les coups et des femmes réprimées par de la violence sexualisée. Les multiples formes de violences observées aux frontières sont toutes le produit direct ou indirect de la délégation du contrôle migratoire aux forces de l'ordre. L'enquête à la frontière maroco-espagnole, comme celle menée aux frontières françaises, montre que les politiques migratoires sécuritaires des États européens et de leurs alliés produisent et ou renforcent de façon notable les violences contre les femmes contraintes de s'engager sur des routes clandestinisées pour arracher leur liberté de mouvement. Comme les récits des femmes rencontrées l'illustrent, les politiques participent à construire, tout au long de leur périple, un continuum d'espace où elles doivent faire face aux rapports de pouvoir et de domination sexistes et racistes afin de passer les frontières leur étant fermées. La question de la classe sociale intervenant plus en amont des frontières en général avec la question de l'obtention ou non-obtention des visas. Le contrôle contemporain des mobilités renforce ainsi inéluctablement le contrôle du corps des femmes. Mais les recherches menées montrent qu'en plus du contrôle militaro-policier, d'autres sources de contrôle genré et racialisé peuvent intervenir aux frontières. Par exemple, l'étude des modes de passage des frontières montre que les femmes sont souvent assignées au mode de passage payant des frontières, puisque les méthodes gratuites, telles que le passage des barrières, comme on en a l'exemple aux frontières de Ceuta et Melilla, ou des montagnes, sont souvent considérées comme trop difficiles, trop physiques pour les femmes. Ces dernières sont donc tributaires souvent de voies de passage monnayées, qui les mettent dans des situations d'emprise et donc de vulnérabilité accrue face aux violences de genre. Les frontières étant souvent contrôlées par une pluralité d'acteurs officiels et officieux, mais quasiment tous de genre masculin. La voie des hautes montagnes, par exemple, est souvent considérée comme trop difficile pour les femmes. Elles sont ainsi bien moins nombreuses du côté de la frontière franco-italienne à Briançon. Ces dernières sont souvent incitées à passer plutôt du côté de Vintimille, où là encore, on leur déconseille de prendre le fameux sentier du Pas de la Mort, et elles se retrouvent ainsi en très grande majorité sous le joug de passeurs à la gare ferroviaire de Vintimille. Il est intéressant de souligner que ces assignations genrées à utiliser tel ou tel mode de passage en fonction de si l'on est un homme ou une femme émanent non seulement des stéréotypes de genre qui circulent entre les personnes migrantes elles-mêmes, mais aussi parfois d'intermédiaires des dispositifs de passage ou encore de militants, militantes, solidaires qui conseillent telle ou telle voie de passage aux personnes en quête de traversée. Malgré les oppressions et les blessures, la puissance d'agir des femmes se déploie et elles sont souvent des actrices clés des dispositifs de passage des frontières. Les femmes enquêtées nous donnent une autre vision de leur vulnérabilité aux frontières que celle qui est véhiculée par les politiques et certains acteurs accompagnant ou contraignant leur mobilité. Porter attention à leurs expériences et à leurs points de vue permet d'une part de comprendre la pluralité des instances et processus de production de leur vulnérabilité aux frontières et d'autre part, leurs récits renseignent sur des situations de vulnérabilité où les femmes, malgré les violences, performent leur puissance d'agir pour elles-mêmes, mais aussi parfois pour soutenir d'autres personnes, souvent d'autres femmes. Les enquêtes menées montrent la coexistence de différentes stratégies pour faire de leur vulnérabilité réelle ou supposée des outils pour passer les frontières. En somme, les recherches rendent évidente ce que les femmes migrantes rencontrées disent elles-mêmes. La lutte contre les violences faites aux femmes doit forcément passer par leur accès à toutes, à la liberté de circulation et d'installation.
Et maintenant, chers auditeurs, on va écouter le témoignage de Blairina, traduit par Holly Girls, sur son parcours migratoire et son vécu en tant que femme. Alors, nous sommes en présence de Madame Blairina, une femme qui a tout laissé derrière elle dans son pays d'origine à cause des obligations qu'elle a dû subir en tant que femme et aussi des difficultés qu'elle a dû affronter pour arriver jusqu'ici. Pour ainsi accorder à son fils les meilleures conditions de vie dans lesquelles il aura une pleine liberté d'expression. Alors, Madame Blairina, on aimerait se situer un peu plus dans votre passé, si vous nous le permettez. Et avec cette question, on aimerait savoir quelles étaient les difficultés que vous avez dû approuver en tant que femme dans votre propre pays avant de vous expatrier?
Problemi më i madh ka qenë kur në moshën 15 vjeçare më anë kanë fëjuar me babane e oligersit.
À l'âge de 15 ans, on me fait fiancer à mon ex-mari. Je n'y étais pas du tout consentante. Et on me fait arrêter l'école, sauf que moi j'avais mes rêves, l'envie de continuer l'école, d'avoir un diplôme, d'avoir un travail. J'ai eu des violences psychologiques et physiques, et c'est pour ça que je me suis immigrée en France.
Et maintenant, on arrive donc à ce moment clé prison dans lequel vous êtes ici avec nous. Quelles étaient les difficultés pour vous aussi en tant que femme quand vous êtes arrivée en France avant d'avoir obtenu vos papiers?
Le problème était pour la fletien, parce que nous n'avions pas de vin de flinim.
C'était le logement, de prendre des douches, de manger. La plus grosse peur était de tomber dans la prostitution, d'être dans de mauvaises mains, dans des choses illégales, d'être avec des mauvaises personnes.
Cependant, que pensez-vous des inégalités hommes-femmes et des conditions de différence entre les hommes et les femmes sans papier
Nuk ka diferencë mashkull apo femër, sepse është vështirë për të fletur. Është për një...
Il n'y a pas trop de différence de situation, parce que homme ou femme ne trouve pas vraiment de logement pour se nourrir, pour se doucher. Mais un homme aura plus de facilité à trouver un travail, aura plus de facilité à s'ambianter, à trouver plus de contacts, alors qu'une femme reste un peu plus dans son coin.
Et maintenant, aujourd'hui, on va dire, vous êtes maintenant une femme comblée, vous avez vos papiers, votre fils va à l'école. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Tani, jam shumë mirë, vetëm se jam e lodhë psikologikisht, sepse kam kaluar shumë...
Oui, là, ça va mieux, mais j'ai beaucoup de douleurs psychologiques, des épisodes très douloureux. Qui sont maintenant passés, mais ça me revient toujours à la tête. Maintenant, c'est du passé. Je me sens beaucoup plus heureuse.
Chères auditrices, chers auditeurs, pour conclure cet épisode d'aller-retour, nous allons maintenant écouter les paroles de trois femmes, Mariama Sidibé, Béchira et Fatou Diagne. Toutes les trois mobilisées lors de la marche contre le racisme et les violences policières du 19 mars 2022 à Paris. C'est ici.
Je m'appelle Mariama Sidibé. Je suis déjà régularisé, mais je viens soutenir mes camarades.
Exactement, parce qu'en fait, c'est l'union qui fait la force. On aimerait aussi savoir avec quel collectif militez-vous aujourd'hui pour cette deuxième édition.
Nous sommes comme le collectif sans papier de CSP 75, 19e, 18e et 11e.
Comment était votre accueil la première fois que vous êtes arrivé en France?
Je travaillais au noir, mais avec le travail au noir, ça ne sert à rien. Parce que quand, même si tu gagnes des millions et que tu n'as pas ce bout de papier là, personne ne va te considérer quoi. Exactement. Tu n'es pas considéré du tout.
Exactement.
Et quand tu sors en courant, tu rentres en courant. Tout est calculé chez toi. Le moment que tu n'as pas ces papiers là, nous sommes là pour travailler. Un blanc, on ne va pas lui dire, va faire le ménage. Il ne va pas y aller. C'est les Africains. Les Arabes, c'est eux qui vont. Bon, je vous chante l'hymne national des sans-papiers. Nous sommes les sans-papiers à l'unité pour la France. Liberté, égalité, fraternité. Aux sans-papiers, solidarité. Libérez les sans-papiers. Donnez-nous des résidences, la France, régularisée de tous les sans-papiers.
Merci beaucoup madame, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau des allers-retours. Au revoir à vous et bon retour. Que pensez-vous de la condition de la femme, particulièrement, parce que c'est ça le thème de notre podcast,
ouais,
en fait, dans sa double racisme.
Ouais. En fait, les femmes sans papier, c'est la double peine. On est doublement racisés. Déjà, nous sommes venus des pays où les conditions féminines ne sont pas terribles. Les femmes sans papier, c'est la double peine. Nous subissons beaucoup de racisme dans le travail, des lois racistes. La circulaire Valls, c'est une circulaire patriarcale. Il faut se marier, il faut enfanter en France pour avoir des papiers. Ça. Les femmes sans papier, malheureusement, on vit parfois avec un compagnon. Il est violent, mais on ne peut pas, même pas porter plainte. Les femmes sans papier, c'est la double peine, mais là, vous voyez, les femmes sans papier, on est au premier rang pour dire non au racisme. Et notre lutte, elle continue. On ne sont pas nombreuses. Les hommes, ils sont plus dans les collectifs sans papier, mais on continue à s'organiser. Et on continue parce que nos conditions, et nous appelons aussi à la sororité. Le 8 mars, nous étions là, les sans-papiers, nous appelons à la solidarité féminine, nous appelons à la sororité parce que les femmes, nous devons nous unir, la classe ouvrière, les femmes qui travaillent, les femmes parce que nous avons les mêmes problèmes, que ce soit femmes sans-papiers, femmes françaises, nous avons les mêmes problèmes, les viols, les discriminations raciales, les discriminations sexistes, les violences sexistes, nous subissons tous ensemble sexuelles, mais aussi il y a les violences institutionnelles des femmes sans papier. Du coup, là, nous subissons la double violence, mais nous appelons à la solidarité féminine, à la sororité, parce que notre cause, elle est commune. La femme, le problème d'une seule femme, c'est le problème de toutes les femmes du monde.
Alors moi je m'appelle Fatou Dieng, donc je suis franco-sénégalaise et mon frère Lamine Dieng qui avait 25 ans a été tué par la police le 17 juin 2007, ça va faire 15 ans cette année.
Que pensez-vous de la condition de la femme qui est double fois racisée aussi en France?
La condition de la femme déjà, une femme noire musulmane, voilà, c'est la condition de la femme. De toute façon, même chez les personnes blanches, la condition de la femme n'a jamais été, on va dire, valorisée. Donc, c'est toujours à la femme de pouvoir se battre pour faire valoir ses droits. Et c'est vrai qu'au niveau des violences policières, on a constaté qu'il y a quand même majoritairement de sœurs qui se battent pour justement leurs frères qui ont été tués, des mères qui se battent pour leurs fils tués, des femmes qui se battent pour leurs maris tués et des enfants qui se battent pour leurs pères tués. Donc on peut dire que oui, que l'humanité, c'est la femme, quoi. Donc à chaque fois, même en Afrique, hein, quoi qu'il arrive, c'est toujours les femmes, à un moment donné, qui se mettent en avant des choses pour justement l'humanité, pour la survie de l'humanité.
Merci chers auditeurs et chères auditrices d'avoir écouté ce podcast sur les vécus des femmes migrantes. Le prochain podcast, fait par l'Asti de Petit-Quevilly, traitera les violences et bavures policières. À très bientôt et bonne écoute.
C'était Aller-Retour, un podcast réalisé par la Commission Jeunesse de la FASTI. Retrouvez les 3 épisodes en podcast sur la plateforme Castopod de Jet en tapant castopod.jetfm.fr.